Bonsoir. Le gouvernement angolais a fixé au mardi 18 mars le début des négociations directes entre les délégations de Kinshasa et les rebelles du M23 dans la ville de Luanda, capitale de l'Angola. Selon un communiqué parvenu à Radio Okapi, cette décision a été prise avec diligence face au conflit qui affecte l'est de la RDC. Ce document a été publié au lendemain de l'annonce par la présidence angolaise des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Quelle est faire de cette annonce? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce jeudi 13 mars 2025. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Achille Kiapanga. Il est avocat et analyste indépendant, expert dans les domaines de la sécurité. Achille Kiapanga, bonsoir.
Merci madame, je vous salue, je salue tous les auditeurs de notre cher radio et le débatteur.
Johnson Ishara, membre de la société civile du Nord Kivu, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente d'IGENEC RDC ASBEL. Il est aussi chercheur en gouvernance, sécurité et politique, également activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Johnson Ishara, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent.
Trésor Kibangula est également avec nous dans cette émission. Il est analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Trésor Kibangula, bonsoir.
Bonsoir et merci de m'accueillir dans cette émission.
Amatadio Congo Central, vous nous suivez sur la sonde 2.0 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur l'IHTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Kapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le gouvernement angolais a fixé au mardi 18 mars le début des négociations directes entre les délégations de Kinshasa et les rebelles du M23 dans la ville de Luanda, capitale de l'Angola. Un tournant décisif qui se profile dans la quête de la paix en RDC. Ces discussions directes entre le M23 et le gouvernement débutent, comme je l'ai dit, mardi 18 mars, comme l'a annoncé la médiation angolaise, mercredi 12 mars. L'opinion publique s'interroge désormais sur l'objet précis de ces négociations, comme l'explique Askanzigbia Tayoro.
Il apparaît clairement que les deux parties font face à un véritable casse-tête devant aplanir les divergences lors des pourparlers. Le gouvernement congolais se trouve confronté à trois niveaux de problèmes. D'abord, le M23 exige depuis toujours le respect des accords de 2013, notamment sa réintégration dans l'armée, sa transformation en mouvement politique et le retour des réfugiés en provenance du Rwanda et de l'Ouganda. Ensuite, le Rwanda, le président Paul Kagame, qui apporte un soutien militaire au M23 continue de réclamer la neutralisation des FDLR sur le sol congolais. Afin l'arrêt de Corneille Nanga, cette rébellion est le nouvel acteur dans le conflit. Souhaite également participer aux négociations en avançant les revendications liées à la mauvaise gouvernance du pays. Par ailleurs, le gouvernement congolais a toujours affirmé qu'il ne pouvait pas tolérer la réintégration des rebelles dans l'armée régulière, car cette pratique de mélange a considérablement fragiliser le FARDC au niveau de chaîne de commandement. En définitive, il reviendra aux deux parties de faire d'énormes concessions pour parvenir à une paix durable en RDC.
Merci Askin Zigbia Tsayoro, Achille Kiapanga. Je rappelle que vous êtes avocat, analyste indépendant et expert dans le domaine de la sécurité. Comment vous avez réagi lorsque la présidence angolaise a annoncé les discussions directes entre Kinshasa et la rébellion du M23?
Merci beaucoup madame. Moi, ma première réaction était celle-ci. Est-ce que le destin de la RDC est encore entre les mains des Congolais? Puisque quand un communiqué vient des pays étrangers, c'est comme si ça échappait directement au contrôle des Congolais. Donc c'est le médiateur, qu'on peut l'appeler ainsi, qui lance un communiqué. Ça, c'est pour tout le monde. Néanmoins, comme c'est une vieille histoire.
Il fait la médiation, c'est normal. Vous trouvez ça normal qu'ils puissent annoncer que des discussions vont se tenir entre Kinshasa et le M23?
Parce que les Congolais ne s'y attendaient pas. En tout cas, on n'était pas préparé à pareil communiqué. Ça a surpris.
Après parce que le président de la République avait juré de ne pas négocier, avoir en face de lui le M23.
Il l'a toujours dit, il l'a toujours répété. Quand on voit l'allure de la situation au niveau de l'Est, on se dit finalement, il y a quoi? Mais est-ce que c'est pour apaiser les tensions ou à l'ONU? Puisque à dépit de tout ce qui est comme communiqué, madame, rien n'a changé sur le terrain. Les villes, ou bien la guerre continue. Donc, l'M23 avec le Rwanda n'ont rien respecté. Donc, tout ce qui a été communiqué par les différents grands pays de ce monde, que ce soit les États-Unis,
les sanctions,
ça n'a rien comme effet. Voilà. Alors, on se dit finalement, on est où? Est-ce que c'est une façon de faire juste apaiser les tensions? Voilà un peu la grande question que moi je me suis posée. Mais quand je suis allé très loin, je me suis dit, bon, on a toujours dit que l'expérience sera sage. Ce n'est pas la première fois que la RDC doit se retrouver devant pareille situation. On a été à San City, on a été, je ne sais pas, en Ouganda, on a été à Nairobi, on était presque partout. Gaborone, on est déjà passé partout là-bas. Mais très loin, je me dis aussi une chose. Comment expliquer qu'un pays qui vient fraîchement des élections peut connaître des tumultes comme ça? Il n'y a même pas 2 ans, on a élu le président, on a mis toutes les institutions en place. Mais comment expliquer que du coup, on tombe dans des tumultes comme ça? On peut se dire, non, apparemment, nos institutions ne sont pas fortes. Parce que si la RDC avait des institutions qui étaient un peu fortes, apparemment, ces secousses n'allaient pas avoir lieu. Voilà pourquoi, quand on parle d'institutions fortes, il faut aussi voir les hommes forts. Parce qu'on ne peut pas avoir des institutions fortes sans pour autant avoir les hommes qui animent ces institutions-là. Et là, je me suis posé des trois questions. La première était celle-ci. Quand je prends, par exemple, le Sénat, comment ont été les élections de nos sénateurs? C'était juste aller acheter les voix au niveau peut-être député provincial et devenir sénateur. Alors quand quelqu'un est déjà sénateur aujourd'hui, il se dit, je dois d'abord récupérer mon argent. Il n'y a pas de vision politique, il n'y a aucune réflexion par rapport à la politique du pays, mais je dois d'abord récupérer mon argent que j'avais remis aux députés provinciaux qui m'ont donné ce siège ici. Il est avec beaucoup de députés nationaux, vous avez vous-même comment ça s'est passé à la Cour de cassation, machine à voter, consort. Donc, chacun veut d'abord récupérer ce qu'il a perdu. Voilà pourquoi vous trouvez que l'Assemblée nationale est fragile. Or, c'est là où il y a le fondement, c'est là où il y a l'espoir du peuple. Parce que ce sont eux qui représentent le peuple, l'émanation du peuple, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement. Mais quand il y a déjà des fragilités, avec le théâtre auquel on assiste matin, midi et soir, on se dit finalement, le pays est en danger. Donc les institutions du pays ne sont pas fortes, voilà pourquoi l'ennemi en profite. Et quand c'est au niveau de l'Assemblée, ça se répercute sur d'autres institutions. Aujourd'hui, nous sommes devant un procès, les officiers qui ont fui à Goma, Bukavu, vous voyez qu'on sort. Pourquoi toutes ces questions-là? Ça montre qu'il y a déjà une fragilité au sein de nos institutions. Parce que ce n'est pas normal, une année, quelques mois après les élections, on tombe dans des gouffres, on est dans des situations pareilles, c'est qu'on doit encore tout réorganiser. Mm-hmm. Alors, comme vous l'avez dit, la question de Nairobi, et plutôt de comment nous avons accueilli ça, je pense que les Congolais ont besoin de la paix.
Donc, qu'est-ce que vous attendez de ces négociations directes, si elles ont lieu?
Oui, les Congolais ont besoin de la paix. Mais moi, je me dis une chose. On va aller en Angola, oui, on va discuter, c'est bon. La paix, c'est une denrée rare. Très chère, puisque l'or, le diamant est consort. Mais la grande question est celle-ci. Ces places sur lesquelles on amène cette paix au niveau d'Angola appartient à qui? Est-ce que c'est le plat congolais? Parce que c'est ça la grande question qu'on se pose aujourd'hui. On va aller négocier, c'est bon, les discussions et qu'on sort. Mais le plateau sur lequel on amène cette paix-là appartient à qui? Est-ce que ce n'est pas un plateau de Kagame? Parce qu'on a vu ça en 1997, on nous a amené le président Kabila sur le plateau de Kagame. Mais quand Kagame a réclamé son plateau, on a vécu quoi? Aujourd'hui, c'est la même histoire qui va encore se répéter. Nanga vient avec les autres, elles viennent. On va aller négocier. Mais le plateau sur lequel on a mis les négociations, c'est un plateau de M. Kagame. Quand il va réclamer son plateau, donc ce sera un cercle infernal chaque fois. Vous voulez vous organiser, c'est une rébellion qui naît, vous allez négocier. Donc c'est ça la vie de la politique congolaise. Alors, le sort de la population est où? Parce que la population maintenant est victime. Quand il y a la guerre, il n'y a pas de développement. Vous voyez comment les gens meurent tout le jour. Donc, le pays est vraiment asphyxié. Moi, je me mets à la place de la population. Je pense que c'est la population qui va être sacrifiée. Il faut qu'on fasse attention, madame.
Johnson Ishara, vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente, DGNEC-RDC-ASBEL. Vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique et activiste engagé pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Qu'est-ce que vous vous attendez de ces négociations directes qui sont annoncées par la présidence angolaise entre les délégations de la RDC et les M23 pour essayer de trouver une solution ou mettre fin à la guerre qui sévit dans la partie est de la RDC?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de m'acquitter d'un devoir patriotique. Ici, c'est de rendre hommage à tout le Congolais vivant à Goma et à Bukavu. Parce que chaque fois qu'il est en train de sonner 19h, 18h30, c'est la paix au ventre. Déjà hier, 8 quartiers sur 10 quartiers de Goma ont été attaqués par des bandits armés. Il y a eu beaucoup de victimes dans la ville de Goma. À Bukavu, c'est la même chose. Donc, les hommes en armes imposent la terreur dans les deux villes. Et le Congo n'est pas parti aux élections 2023 pour mériter le sort aujourd'hui. Je rappelle aujourd'hui, Goma, c'est tous les jours qu'on est en train de tuer les gens dans les rues. Et le pays ne mérite pas ça. Alors, par rapport à la question qui reste pertinente, je pense que, comme mon prédécesseur l'a dit, moi, quand je lis ces communiqués, honnêtement, je dois dire que j'écris d'abord que nous étions le 1er avril, je pensais à un poisson d'avril, jusqu'à ce que je regarde sur ma montre et que j'ai réalisé que nous étions au mois de mars. Parce que c'était vraiment inattendu, d'abord, parce que le contexte, la forme dans laquelle le communiqué a été partagé, je suis d'accord, nous sommes un État souverain, c'est pas toujours un autre État qui peut nous informer des ce que nous sommes en train d'envisager. Je rappelle ici que le président angolais n'a pas envoyé un émissaire en RDC. C'est le président congolais qui s'est déplacé en Angola, donc en réalité, au nom de la redevabilité, c'est le gouvernement congolais qui devrait d'abord circonscrire la circonstance dans laquelle le président s'est rendu en Angola, et à l'issue de ces échanges, quelles sont les conclusions? Voilà pour un État sérieux et par respect au peuple ce qu'on devrait faire. Mais quand le gouvernement angolais nous informe, encore de quoi? C'était quoi le contenu de l'information? Que le combat pour lequel Félix Tshisekedi, le président de la République, a dit qu'il négociera jamais avec le terroriste, et je pèse bien le mot parce que je connais ce que ça veut dire terroriste, pour un État responsable, pour un gouvernement responsable, on négocie pas avec les terroristes. Et quand le président l'a dit pendant 6 ans, aujourd'hui maintenant nous sommes en face, et c'est un autre gouvernement de notre pays qui nous informe, enfin nous allons négocier avec les terroristes, voilà ce que ça fait. Et comme ça ne suffit pas, après cette communication, le porte-parole du gouvernement devrait réagir. Et encore, la réponse du porte-parole du gouvernement m'a fait encore la chair d'épaule, parce que le porte-parole dit que cela, c'est une initiative. Il a précisé. Cela, c'est une initiative du gouvernement angolais. Quand est-ce que nous serons dans nos initiatives aussi? Parce que c'est ça aussi la question. La deuxième question, c'est de savoir si aujourd'hui la République démocratique du Congo accepte de négocier. Pourquoi nous avons attendu tous ces morts, Madame Kelly? Moi, je suis de la ville qui a perdu, d'après différentes statistiques, je pense que toutes les statistiques, si je m'étenais seulement aux statistiques du gouvernement, qui parlent de 8 500 et quelques, mais il y a d'autres statistiques qui nous ramènent même à 15 000, je suis de cette ville de Goma qui a perdu tous ces gens-là pour une question qu'on pouvait anticiper, toutes ces pertes. La ville de Bukavu est en train de perdre des villages comme Kishishe, où on a enterré des gens vivants. Et aujourd'hui, parce qu'enfin il y a de grandes villes qui commencent à être menacées, on s'est dit, on oublie tout ça. Qui doit répondre par rapport à ces morts? Parce que la responsabilité, elle est partagée, Madame Kelly. La responsabilité, elle est partagée pour un État, un gouvernement qui devrait protéger ses citoyens. La responsabilité est aussi aux auteurs de ces massacres-là. Et le pays méritait mieux.
Peut-être que ça sera évoqué à Luanda lors de ces négociations.
Ça a également une autre problématique. Comment vous allez négocier avec quelqu'un déjà que vous avez condamné à mort? Comment ça va se passer? Comment vous allez négocier avec quelqu'un dont sa tête est mise à prix à 5 millions de dollars, Madame Kelly? Vous
au nom de la paix, on se dit, on fait table rase, on négocie
au nom
pour
de la
sauver
paix,
le pays.
Au nom de la paix, on reste attaché aux valeurs citoyennes, c'est-à-dire protéger d'abord le Congolais. Je rappelle tout cela. C'est-à-dire, on sent quand même que, parce que les étapes des négociations, il y a également l'élément fondamental, c'est l'élément de la bonne foi. Est-ce que ces négociations vont faire preuve de bonne foi? Même quand à quoi on peut s'attendre par rapport à l'issue de ces négociations? Bien, c'est connu de tout le monde, connaissant l'histoire du pays, c'est qu'on va demander le mixage, encore une fois, de forces armées. On va demander que la branche, de l'autre côté, on propose également ce qui vont intégrer l'administration congolaise. On n'a pas résolu les problèmes à mon niveau. On va créer encore un cheval de Troie pour des générations qui vont venir après nous. Et je rappelle bien, si les Congolais, je pèse bien le mot, si les Congolais ont accepté d'accorder le second mandat à M. Félix Tshisekedi, c'est parce qu'ils ont tenu à la parole, on ne va pas négocier, on va gagner cette guerre.
Vous êtes contre ces négociations directes?
Les négociations directes pour tous ceux qui militent pour la paix, c'est le préalable, ce qu'on peut souhaiter. Mais la bonne question, c'est de savoir, on va négocier sur quoi et avec qui? Parce que des parts et d'autres, que ce soit les circuits.
On va négocier avec le M23, c'est clair.
Oui, mais le gouvernement congolais...
La présidence angolaise a été claire.
Le gouvernement congolais ne reconnaît pas qu'on est attaqué par le M23. Le gouvernement congolais reconnaît que nous sommes attaqués par le Rwanda. Et le gouvernement a demandé que les négociations soient entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, si le gouvernement accepte de négocier avec le M23, le gouvernement va pêcher d'abord contre toutes les lois, parce que n'oubliez pas déjà qu'à l'Assemblée nationale, on avait voté une loi interdisant le gouvernement congolais de ne jamais plus engager des négociations avec des groupes rebelles. Et à l'occurrence, je me rappelle à l'époque, le sénateur Moïse Nyarugabo, il avait dit, excepté le M23, on l'avait traité de tout le monde, on l'avait ingéré dans toutes les langues. Mais aujourd'hui, maintenant, si la loi elle-même nous interdit, qui sommes-nous pour violer les lois chaque fois que nous sommes dans une incapacité? Parce que la gestion de la chose publique, Madame Kelly, ça nous ramène également à une grande responsabilité. C'est à l'anticipation. Ce qui se passe aujourd'hui sur les lignes de front, on peut tout simplement comprendre que le gouvernement n'a pas si pesé de tout son poids. Tenez, on peut retenir que depuis Bounagana, toutes les batailles sont perdues. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est à ce moment que nous sommes en train de parler, il y a des villages de Walikale qui sont en train de connaître des déplacements massifs des populations. Jusqu'à Walikale, jusqu'aux environs de Uvira, dans la plaine de la Ruzizi, jusqu'à Walungu, c'est quand même grave. Tenez également que nous avons constaté, d'ailleurs dans le journal de la Radio Kapi, on a parlé du retrait déjà de militaires.
De la force de la SADC.
De la SADC, ce qui veut dire que les organisations régionales, aujourd'hui, nous regardent maintenant pas avec les yeux de moquerie, parce que l'EAC, nous l'avons fait partir. Aujourd'hui, c'est la SADC elle-même qui décide de partir. N'oublions pas également que le mercenaire, parce que ça c'est un élément important, Madame Kelly, le mercenaire qui ont été appelés aujourd'hui pour sécuriser Goma, ils ont été humiliés après avoir saigné les caisses de l'État, vidé les caisses de l'État avec des salaires colossaux. Et encore, la question aujourd'hui, ce que mon prédécesseur a évoqué, moi j'appelle ça de la faiblesse aujourd'hui institutionnelle, parce que c'est la première fois de mon vivant de voir quand même que le pays peut être en guerre, et les silences qui sont observés par les deux chambres, que ce soit la chambre haute, que ce soit la chambre basse, les gens sont devenus aujourd'hui des chantres, tout le monde veut crier, mais le travail de fond pour la protection des civils n'est pas fait. Je pense qu'on peut tout simplement comprendre qu'on a maintenant à faire comme si le gouvernement n'a plus de lignes de conduite. Il va maintenant aller en tâtonnant et c'est très grave pour la République.
Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli, se dirige-t-on vers une sortie des crises, Trésor Kibangula, après l'annonce faite par la présidence angolaise sur ces négociations directes qui vont débuter le 18 mars entre Kinshasa et le M23.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord juste recadrer deux, trois petites choses, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y a un RDC aucune loi qui interdit de négocier avec des groupes armés. En 2022, le 8 novembre 2022 exactement, l'Assemblée nationale avait plutôt adopter une résolution qui interdisait d'intégrer, de mixer, de brasser des éléments des groupes armés, des groupes terroristes. Donc c'est quand même très important de rappeler les faits, parce que c'est essentiel pour la compréhension de la dynamique. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, à mon sens, dans cette séquence qui s'est accélérée comme le les deux co-débatteurs l'ont souligné avec cette annonce de la présidence angolaise, aujourd'hui les retraits des troupes de Sami DRC. Et je trouve que, même si ça a surpris tout le monde, ces revirements, mais l'Angola prête quand même une perche aux autorités congolaises dans ces revirements présentés comme une initiative angolaise. Parce qu'en fait, en laissant l'Angola prendre l'initiative, le président Tshisekedi accepte initialement un cadre de négociation tout en évitant d'assumer directement ses virages à 180 degrés. C'est une façon pour lui de préserver une posture de fermeté vis-à-vis de l'opinion publique, parce que les amis ici ont rappelé, il a battu campagne sur un ton martial, qui va porter la guerre là où ça a commencé, qui va réunir le décembre pour mener, pour déclarer la guerre. Voilà, il y a eu beaucoup de discours comme ça, autant guerrier, et aujourd'hui il faut maintenir, il faut préserver cette posture, et en laissant l'initiative à l'Angola, je pense que stratégiquement les présidents essaient plutôt de préserver cette posture de fermeté face à l'opinion publique. Ceci dit, je pense que ces changements de ton s'expliquent aussi par la donne qui s'échange, qui change concrètement sur le terrain. D'abord, il y a les rapports des forces. On a vu la ville de Goma est tombée malgré tous les dispositifs militaires qui étaient là, des mercenaires, des Wazalendo, des FARDC, des Burundais, des Monisco, des troupes des Sami DRC, mais le troupe rwandaise avec le M23 ont pu prendre la ville. Et puis très facilement, Bukavu est aussi tombé. Et aujourd'hui, on constate quand même que l'armée congolaise est en position défensive et la perspective d'une reconquête militaire s'éloigne. Les retraits de Sami DRC annoncés aujourd'hui n'arrangent pas les choses de Kinshasa. Donc les autorités congolaises se rendent bien compte qu'ils viennent de perdre un appui important, ce qui fragilise encore davantage cette option militaire. Donc, je pense qu'il devenait impératif de commencer à explorer une voie diplomatique. Deuxième facteur, je pense, à mon sens, il y a les pressions internationales. On a vu l'ONU, la SADC, plusieurs partenaires internationaux, la France aujourd'hui, qui durcissent le ton contre le Rwanda. Et tous ces partenaires ne cessent de répéter qu'il n'y avait pas d'issue strictement militaire à cette crise. Donc, Kinshasa espérait à un moment donné capitaliser sur ces sanctions pour se renforcer avant d'éventuelles négociations, mais aujourd'hui la réalité est que l'attente ou les temps ne jouent pas en faveur de Kinshasa, ne jouent pas en faveur des autorités congolaises. Donc accepter les cadres angolais permet en fait d'éviter que d'autres initiatives moins favorables à la position congolaise puissent s'imposer. Et dernière chose, Madame Kelly, je voudrais aussi souligner la dynamique politique interne, parce que c'est très important. C'est pas juste une coïncidence que cette annonce de la présidence angolaise intervienne après la visite des évêques catholiques et des responsables de l'église protestante à Luanda. Donc je pense que l'initiative des prélats congolais montre qu'au-delà de Luanda, une partie de la société congolaise pousse aussi pour un dialogue plus large, qui ne se limiterait pas au M23, mais chercherait une remise en question, une refondation plus globale de la gouvernance en RDC. Donc l'Église aussi, ou les Églises aussi, veulent utiliser Luanda comme un levier pour aller vers une sorte de conférence nationale bis. Donc pour répondre directement à la question, est-ce qu'on se dirige vers une sortie de crise? Mais je pense que c'est un premier pas, ça dépend vraiment de comment ça va se passer. Ça pourrait permettre, s'il y a de la bonne foi, si les partis, c'est-à-dire le gouvernement congolais et le M23 AFC, acceptent de discuter franchement et mettre les questions sur la table, ça peut poser les bases d'un dialogue encore plus large sur d'autres questions des politiques nationales qui se posent. On sait que il y a certains leaders de l'opposition qui disent qu'ils ne peuvent pas rentrer, qu'ils sont à l'exil des fêtes aujourd'hui et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les Congos de demain puissent rentrer dans un cycle de bonne gouvernance et de redevabilité.
Alors, Trésor Kibangula, très rapidement, dialogue direct entre Kinshasa et les, le M23, ok, mais l'opinion s'interroge sur l'objet précis de ces négociations. De quoi vont-ils discuter ou échanger lors de ces négociations?
En fait, le M23, c'est un groupe armé qui existe depuis plusieurs années déjà. Donc, on connaît un peu les revendications de ces groupes armés, même si ces revendications aujourd'hui sont appelées à évoluer. Donc, basiquement, on sait que sur la table, le M23 et l'AFC vont mettre la question des retours de réfugiés congolais qui sont dans des pays voisins depuis plusieurs années, comment est-ce que ces réfugiés rentrent dans leur territoire, et ça posera aussi des questions de résidence, leurs maisons qui ont été occupées peut-être par d'autres communautés, comment est-ce qu'on va protéger ces communautés qui rentraient. On sait que à l'époque, les CNDP ou les RCD à l'époque voulaient que lorsque ces communautés rentrent, comme la région il y a beaucoup de groupes armés dans cette partie du pays, et tous ces groupes armés recrutent sur base ethnique, il faudrait que les M23 puisse rester là, protéger les communautés. Ce sera une question en discussion. Est-ce qu'on a une armée qui va protéger tout le monde? Et il y a la question des stigmatisations de communautés Tutsi qui va être sur la table. Ça, c'est vraiment des éléments basiques qui vont revenir sur la discussion. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres causes ou d'autres raisons qui pourraient être mises sur la table, notamment cette histoire de regard des zones d'influence du Rwanda, comment est-ce qu'on assure ou Kinshasa rassure les Rwandais que les FDLR ne sont pas une menace, comment est-ce que Kinshasa va s'engager à mettre en œuvre ces plans de neutralisation des FDLR. Et il faut dire les choses aussi, il y a un regard de Kigali sur les ressources minières de la RDC, est-ce qu'il y a un moyen de trouver une formule pour que l'intégration économique régionale puisse favoriser le développement de la sous-région.
Merci. Trésor Kibangula, on va vous redonner la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de lire quelques réactions des Congolais qui nous écrivent. Ils sont très nombreux à nous suivre sur le compte X et la page Facebook de Radio Okapi. Voilà, il y a Nevo Vokunga, voilà, qui dit ceci. Je te rappelle un rappel. Depuis que Bunagana est tombé 3 ans aujourd'hui, Goma et Bukavu, et demain peut-être Kisangani, on ne le souhaite pas. Pourquoi, je pense, demander, accepter le dialogue aujourd'hui. Voilà. Sam Socrate, je pense que notre pays mérite mieux que ça. Le gouvernement va négocier avec le M23, mais de quoi vont-ils parler? Je crois que Trésor a essayé de répondre un peu à cette question. Achille Biamungu, nous en avons marre, nous voulons la paix, c'est tout, n'est pas négocié, ne signifie pas non plus que le M23 ne va plus continuer à tuer, à occuper des territoires, sinon rien n'est mis en place pour contenir le M23. Est-ce que le téléphone est prêt pour qu'on prenne aussi ces auditeurs qui nous appellent? On va prendre Christian Kassessé qui appelle. Est-ce qu'il est en ligne? S'il est en ligne, on le prend.
Bonsoir Radio Okapi, c'est Elvis Sake depuis la ville de Kinshasa. L'attitude de l'Angola concernant l'initiative de négociation directe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, ainsi que la diligence qui l'accompagne, s'inscrit dans la volonté de parvenir rapidement à la paix face au conflit qui ravage la RDC. En effet, les négociations demeurent une étape incontournable dans tout processus de paix et constituent l'essence même de la diplomatie, en particulier dans le cas de la RDC où les populations continuent de subir quotidiennement les affres de la guerre. Cependant, il convient de reconnaître qu'à ce jour, le président de la République, après avoir refusé catégoriquement de s'asseoir à la table des négociations avec les rebelles du M23, se retrouve dans une posture de faiblesse sur le plan des rapports de force. L'occupation de plusieurs territoires et villes par les rebelles accentue cette position défavorable. Une question légitime que tout Congolais peut se poser la suivante. Qu'est-ce qui empêche la RDC de riposter militairement contre les rebelles du M23?
Maître Achille Kiapanga.
Moi, je pense que sa question vaut aussi son pesant. Mais moi, je me dis une chose. Il faut d'abord qu'on découvre l'agenda du Rwanda. Puisque l'M23 est soutenu par le Rwanda. Et c'est le Rwanda qui nous combat. Quel est le vrai agenda du Rwanda? Quand vous suivez le Parlement rwandais qui acquise même les anciennes limites que non, leur zone serait peut-être donnée illégalement à l'RDC et consorts. Ce sont des agendas un peu qui font peur. C'est quand déjà un État qui a guerre contre vous commence à annoncer de telles histoires, mais ça doit vous faire réfléchir. Ils veulent quoi, ils cherchent quoi. Voilà pourquoi je dis, même si on va les négocier, ce n'est pas la première fois qu'on les fasse, mais eux ont un principe, ils négocient en avançant. C'est ça les Rwandais. Vous avez voulu négocier, mais elles sont en train d'avancer. Voilà pourquoi je l'ai dit tantôt.
Et quelle devrait être l'attitude de Kinshasa face à cela?
Et c'est là où nous sommes. Moi, je pense que Kinshasa a joué plusieurs matchs, ou bien avait plusieurs balles, mais les balles n'étaient pas maîtrisées par Kinshasa. Les matchs étaient pour nous, parce que c'est nous qui jouons la République, mais nous avons laissé peut-être beaucoup d'occasions à l'adversaire de faire ce qu'il a de faire aujourd'hui. 1. La question de la gestion de l'armée. Ça, c'est très complexe, madame. L'armée, c'est le cœur d'un État. Nos militaires, par rapport à tous les moyens-là qui sortaient, comment étaient-ils gérés? Parce qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, avec ce qu'on a vécu à Bukavu et à Goma, on peut espérer encore en quoi? Est-ce qu'on a réussi un peu à remonter le moral des militaires pour qu'il soit encore fort aujourd'hui? J'ai suivi l'aspect lié au va doubler les salaires et consorts. J'ai dit, madame la première ministre, qui s'est lancée dans une activité congolaise, tellement par exemple. Moi, je me suis dit, tous ces fonds-là, prendre dilapider ici à Kinshasa, organiser des messes, organiser des marchés et consorts, ne valent pas la peine. Quand vous arrivez au camp, les cas des militaires, vous voyez les veuves, les orphelins et consorts, est-ce qu'il n'y a pas moyen que madame la première ministre se déplace elle-même au cas qu'elle vive des vices, les réalités de ces veuves, de ces orphelins-là, au lieu de passer par des histoires qui n'ont pas directement aidé. Parce que nous voulons le pragmatisme. Moi, ce que je recommande, madame, c'est le pragmatisme. Il faut que la RDC soit pragmatique pour certains faits. Parce que vous voyez une histoire qu'on
et
peut
faire. Et donc, pour vous, pendant que la RDC sera à Luanda en train de dialoguer avec le M23 sur la ligne des fronts, il faut renforcer, c'est ça?
Nous devons travailler. Oui, nous devons travailler. Parce que l'ère politique est connue. Il dialogue, mais entre-temps, ils avancent. On est en train de vivre ça aujourd'hui. Mais nous, entre-temps, nous faisons quoi? Le lancement de l'activité que madame la première ministre a lancée, elle ne doit pas être liée aux activités que je suis en train de voir aujourd'hui, qui tendent à être catalysées comme des campagnes électorales. Non. Il faut être pragmatique et concret. On trouve les militaires là où ils sont, on voit comment ils vivent, on leur donne des moyens, on leur donne ce dont ils ont besoin, et ils vont travailler. Que de prendre cet argent-là et commencer peut-être à organiser des messes, commencer à organiser des marches, pour moi, c'est perdre l'État inutilement. Il faut qu'on puisse atteindre l'objectif. L'argent n'est pas destiné aux activités.
On en a des capacités aujourd'hui.
Nos militaires sont vaillants, madame. Les Ouazalendos sont là. Les moyens là, il faut que ça atteigne l'objectif. Quand les moyens n'atteignent pas l'objectif, ce n'est pas facile de réussir. C'est là où il y a les grands défis. Même le chef d'État l'a toujours répété. Depuis que l'armée a existé, il n'a jamais autant de moyens qu'il a pu donner. Mais le moyen, est-ce que le moyen atteint l'objectif? C'est ça la grande question. Aussi longtemps que nos moyens n'atteindront jamais l'objectif, madame, les militaires au front, je ne sais pas, les veuves, les orphelins, on cotise autant de millions qu'on voit à la télévision matin, midi et soir. Mais la situation sur le terrain ne change pas. C'est ça les dangers. Nous devons changer d'avoir partie de la madame.
Alors on va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Goma au Nord Kivu.
Je suis docteur Michael Bolingo Sebdesi à partir de la ville de Goma. Nous saluons l'initiative, peu importe quel gouvernement, vient de le faire avec un grand retard, pendant qu'on avait déjà proposé ce dialogue quand ils étaient encore à Bounagana. Aujourd'hui, ils sont en position de force. Mais vu la situation que nous traversons dans la ville de Goma, Bukavu, ainsi qu'à R, personnellement, je sollicite au gouvernement congolais de nous aider à trouver une solution durable pour ne plus vivre de telles situations à l'avenir. Nous souffrons comme jamais vu. De la même façon, ils ont signé leurs accords sans nous associer. Ils peuvent accepter ces accords encore sans nous associer. L'essentiel est d'avoir la paix seulement. Nous restons pessimistes à céder une partie de nos terres aux étrangers. Je dis et je vous remercie.
Alors, Johnson, Ishara, on sent... les gens sont lassés, les gens sont fatigués. Vous sentez la douleur dans le parler de Monsieur Docteur Bolingo qui nous a appelé.
Oui, je comprends bien Docteur Bolingo qui est à Goma. Et comme je dis à l'entame de cette émission, je pense que Goma est en train de traverser une page très très sombre de son histoire avec ce qui se passe. Je comprends pratiquement ce que le docteur dit parce que, bien entendu, la ville, que ce soit Goma, que ce soit Bukavu, il y a un problème de manque d'une politique des plans de contingence. Et ce que le docteur parle, il fait allusion au plan de contingence humanitaire parce que les gens sont en train de souffrir. Déjà, il y a deux médecins qui commencent à dire qu'ils vont se retirer de tous les blocs opératoires. Donc, les blessés n'auront plus de médecins pour le soigner. Il y a un problème de plan de contingence humanitaire. Tous ces déplacés qu'on a fait évacuer des camps, ils sont rentrés certains chez eux à pied, à plus de 200 kilomètres.
Il faut vite trouver une solution.
Il faut trouver une solution, je comprends. Il y a aussi un problème de plan de contingence économique, madame. Je ne sais pas si vous vous imaginez, par exemple, si à Kinshasa on disait il y a plus de banques qui vont fonctionner, comment les gens vont vivre? Mais Goma, c'est comme ça la situation. Même pour retirer 100 dollars, vous devez d'abord laisser à l'opérateur mobile à 10 dollars de vos 100 dollars pour entrer avec 90 dollars. Et jusque là, je comprends, docteur, il constate tout simplement que Kinshasa ne trouve pas de solution. Il faut un plan de contingence sécuritaire, madame, parce qu'aujourd'hui, Goma, il y a beaucoup, beaucoup d'armes qui circulent et les bandits semblent être très nombreux que ceux qui sont censés sécuriser les gens. Et c'est tous les jours qu'on se réveille, il y a des morts. Et à l'occurrence, ces jeunes que moi je connaissais déjà, qui a été abattu dans son lit avec à côté de sa femme et qu'on a jeté dans le toilette, madame. Quel niveau de cruauté, paix à son âme, monsieur Jérôme. Il a été tué dans sa maison et jeté dans des toilettes. Ça prouve quand même, quand vous écoutez un auditeur qui vous dit ça, ne cherchez pas à analyser les paroles. Il faut plutôt analyser l'esprit de ces paroles. Parce que la souffrance a atteint le niveau le plus criant dans la ville de Goma et dans la ville de Bukavu.
Kinshasa doit aller à Luanda.
Non, bon, Luanda.
C'est quoi la solution pour vous si
Kinshasa
vous
doit aller.
Négociation directe.
Kinshasa doit aller libérer Goma. Si vous voulez que je réponde de la manière la plus directe. Mm-hmm. On ne veut pas savoir par quelle voie il faut. Mais l'essentiel, c'est que ceux qui vivent à Bukavu, ceux qui vivent à Goma, veulent voir les forces armées rentrer dans ces villes-là. Alors, il faut quand même noter quand même qu'il y a, il y a des choses. On peut ne pas se les dire. Madame Kelly, lisez les discours des prestations des serments du président de la République. Il est toujours dit, j'agis devant la République, devant le peuple congolais, devant Dieu, de respecter les lois de la République, de protéger les Congolais. Mais aujourd'hui, maintenant, les Congolais ne sont pas protégés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même quand nous allons à Luanda, ça veut dire que le président n'est pas arrivé à protéger les Congolais. En allant à Luanda, c'est de reconnaître déjà que nous avons trahi notre serment. C'est de reconnaître qu'on n'a pas réussi à faire notre travail. Et ça pose problème. Parce qu'on ne peut plus, c'est, aujourd'hui, on ne peut plus se poser la question. Si on va à Luanda, de quoi est-ce qu'on va dire à mon co-débatteur? Je pense qu'on sait déjà ce qu'on va dire. Ce qu'on va, on va dire, c'est qu'il y a déjà, quand les relations diplomatiques ont été rompues entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Madame Kelly, vous vous rappellerez qu'il y a eu trois contrats qui ont été rompus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. D'abord, le premier, c'est que Rwandais ne devrait plus atterrir sur le sol congolais. Le deuxième, c'est que tous les contrats par rapport à raffinerie de l'or devraient être rompus et tous ces marchés-là. Donc, et si le Rwanda se bat, c'est pour dire que ces contrats devraient répondre. Deuxièmement, il y a ces plans maintenant d'intégration politique. L'intégration politique, c'est justement ce qu'on va voir maintenant de militaires qui vont encore une fois entrer dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Du point de vue administration, on va voir des entreprises publiques qui seront gérées par ce quota-là. Et je ne suis pas d'accord avec Trésor qui pense que cette loi n'existe pas. L'Assemblée nationale ne prend pas des résolutions. Les résolutions sont prises dans des forums. Mais à l'Assemblée nationale, c'est un organe législatif. Même quand c'est une résolution, elle est écoulée sous forme de loi. Donc la disposition déjà qui interdit les mixages, ça veut dire que ce soit les rebelles, que ce soit ceux qui sont traités comme des terroristes, déjà cette même résolution, la loi a déjà verrouillée. Donc il y a ce niveau-là et nous devons quand même comprendre ce qui est en train de se passer, que c'est quand même grave sur terrain.
Négocier avec la FCM23, c'est sacrifier tous les efforts consentis par les Wazalendo et certains militaires FRDC qui avaient combattu seuls et sans commandement dans la ville de Goma et qui continuent à freiner l'avancée des rebelles au niveau de Kamanyola. C'est la réaction de Christian Toshi Kazige. Monsieur RSMB, voilà, qui pense qu'il ne faut pas question des négociations. Il estime qu'il ne faudrait pas négocier. On va prendre ces derniers auditeurs qui nous appellent de Kisangani, dans la province de la Tchopo, très rapidement.
Bonsoir à Dionne Lapé, Christian Kassese, juriste de formation depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Le gouvernement de Kinshasa doit saisir cette opportunité pour amener la paix durable au pays. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, on sent malheureusement l'hésitation de Kinshasa à signer publiquement son envie de négocier avec le mouvement AFC-123, ce qui peut être considéré comme un manque de bonne foi de la part du gouvernement congolais. Ça risque de donner des raisons au mouvement AFC-123 de ne pas participer à la négociation. À l'heure actuelle, la sagesse et le sens de responsabilité commande la sincérité dans les négociations. Merci.
Trésor Kibangula, très brièvement, comment vous répondez à cet auditeur ou comment vous réagissez au propos de cet auditeur?
Oui, je pense qu'il a raison. Hein. Il faut faire preuve de bonne foi parce que jusqu'ici, on a l'impression que Luanda n'est pas vraiment un choix. Les négociateurs directs de Luanda ne sont pas un choix assumé par Kinshasa. On essaie de trouver des formules pour gérer l'opinion publique. Mais je pense que les négociations de Luanda traduisent l'échec d'une approche exclusivement militaire, mais aussi la nécessité aujourd'hui pour le président Tshisekedi de reprendre l'initiative dans la crise, parce qu'on a vu le travail de Madame la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner, qui a vu beaucoup de partenaires et les sanctions internationales sont tomber et continuer à tomber, mais ces sanctions internationales-là ne suffiront pas à taire les armes. Donc il fallait que la RDC reprenne l'initiative, montrer à la communauté internationale que je veux aussi être présent sur la table des négociations. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce que les autres parties, c'est-à-dire les 1-23 et même les Rwanda, vont réagir par rapport à ça. Au moins, Kinshasa a pris l'initiative de pousser, de marquer sa présence sur la table de négociation. Et puis peut-être pour terminer, j'ai invité notre co-débatteur de lire Talatala, parce qu'effectivement, il y a des lois et de moyens de contrôle qui sont initiés à l'Assemblée nationale, mais aussi des résolutions et des recommandations. Merci.
Alors, pour conclure, Trésor Kibangula, il y a un auditeur qui anonyme, qui n'a pas voulu mettre son nom, qui demande si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, qu'est-ce qui pourrait arriver?
Ce sera difficile d'imaginer parce que l'issue militaire à la crise n'existe pas. On risque d'aller dans un enlisement de la situation. Donc cette partie est du pays va continuer à être contrôlée par les Rwanda et par les 1-23. Et peut-être ces groupes armés et ces troupes étrangères vont continuer leur progression. Donc ça va prendre encore beaucoup de temps. Et on a parlé ici de la souffrance des Congolais qui subissent un peu les arcs de la guerre. Donc c'est à encourager plutôt l'initiative de paix que d'imaginer ou d'envisager l'échec des pourparlers.
Emmanuel Kinyia Buhuma Nicolas, la négociation est cruciale pour le moment car à Goma, nous traversons le calvaire. Maître Achille Kapanga, quels sont les scénarios possibles à l'issue de ces négociations?
Vous savez, madame, un citoyen de Goma, de la Brousse et de Maïndombe là-bas, il ne connaît pas Kinshasa, mais il est dirigé à partir de Kinshasa. J'ai toujours condamné l'inconstance politique de nos politiciens congolais. On n'a pas un politicien modèle sur lequel on peut se référer. Puisque aujourd'hui, quand c'est Kabila, tout le monde est là. Quand ça change, c'est que tout le monde est là. Donc cette inconstance-là nous fait perdre nos valeurs politiques. Et aujourd'hui, maintenant, les politiciens sont comme des papillons. Il y a même certains qui commencent à trahir des gens. C'est ça les dangers que nous avons dans ce pays. La population est victime innocente.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les négociations, les scénarios possibles?
C'est là où nous sommes, madame. Je suis en train de conclure.
Oui.
J'ai dit ceci. Donc, le peuple, lui, ne peut se fier qu'à ses dirigeants. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà pourquoi je suis en demandé à notre gouvernement d'être un peu responsable. Et surtout de ne pas mordre aux hameçons dangereux. Parce que là où ils vont, il y a des hameçons très dangereux. Entre autres, peut-être les mixages, les brassages et consorts. Or, avec tout ce que nous avons vécu dans ce pays, bien sûr, avec Kabila, on peut dire qu'il avait une sorte d'accalmie, même c'était d'une manière hypocrite, puisque l'ancien ministre de la décentralisation, il était comme aussi un sénateur à vie à ce poste-là. Il y avait quand même quelque chose qu'on pouvait relativiser. Mais aujourd'hui, là où nous sommes, c'est où? Comme pour répondre à votre préoccupation, nous pensons que ce qui est important, un, c'est d'abord la considération de la situation dans laquelle se trouve et qu'on y amène des idées constructives et non pas des théories. Parce que la plupart des fois, les gens vont faire de cette question encore l'objet de commencer à créer des scénarios alors que l'ennemi a fait souffrir le peuple de l'autre côté là. Pourquoi je dis ça? Comme aujourd'hui, par exemple, moi je suis de Beni, l'IPDF est là. Mais on vous dit que les élèves continuent à tuer les gens bénis. Toutes ces souffrances-là, c'est le dos de qui? Et ce peuple a peur à les plaire auprès de qui? Voilà pourquoi, tout en remerciant l'actuel gouverneur du Nord Kivu, le général Evasom et son équipe, qui veulent montrer quand même qu'ils peuvent faire quelque chose,
merci.
Nous pensons que c'est l'occasion de demander aussi à tous les politiciens congolais, à tous les dirigeants congolais, d'être debout, et non pour leurs intérêts privés, mais pour défendre le peuple congolais, afin que les citoyens congolais de Mandumbi, de Mabalako, de partout, puissent trouver la paix et quitter cette souffrance, madame.
Merci, maître Achille Kapanga. Johnson Ishara, c'est vrai que la présidence angolaise a annoncé les débuts des négociations entre Kinshasa et le M23. Voilà. Est-ce que vous pensez que le médiateur, le président angolais, pourrait être limité dans ce conflit quand même assez complexe? Il y a ces négociations, oui, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être limité à un certain moment bloqué?
Oui, il peut être limité, comme le disait souvent le philosophe Godefroy Kamana, paix à son âme, qui disait qu'à l'époque de Kitsumi Rimasire, il avait également avoué qu'il n'avait jamais rencontré un peuple aussi particulier comme le Congolais. Donc un Congolais, tu peux parler avec lui, il te rassure que tout va bien. Et après 5 minutes, il est devenu quelqu'un d'autre. Et il y a des scénarios possibles face à ce qui se passe aujourd'hui. Le premier scénario, il peut arriver qu'ils acceptent tous de se retrouver sur une même table, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est en train de gagner militairement, qui n'a plus peur sur les lignes de front, qui peut dire « je n'ai plus rien à perdre, donc si tu ne veux pas, j'avance », et qui peut même refuser. Il y a ces refis-là qui peuvent venir du camp de l'autre côté. Le deuxième scénario, il peut arriver qu'on accepte enfin un face-à-face. Mais comme les Congolais ont déjà perdu la bataille du temps, ces négociations peuvent s'étirer sur une longue période. On a vu l'expérience où une négociation avait duré plus de 12 mois. Et de quoi ils parlent? Parce qu'ils doivent se mettre, ils sont toujours en désaccord, même sur des petites virgules. Et entre-temps, les Congolais seront en train de souffrir dans leur village, dans leur petite ville. Alors, le deuxième scénario, le troisième scénario, il peut arriver, déjà, si nous prenons au sérieux la demande du gouvernement congolais face au gouvernement américain, soit en disant qu'on était prêt à mettre à la disposition du gouvernement américain de quelques minerais pour que, voilà, Donc ça veut dire quand même que le gouvernement peut arriver à dire nous sommes prêts à tout, l'essentiel, on reste, on termine notre mandat, on vous écoute, on avance d'abord. Et ça c'est un scénario aussi qui peut arriver mais qui peut être très scandaleux. Parce que là on ne va rien résoudre mais on va être dans une situation où on est en train de vouloir protéger les individus et qui doit finir leur bien vouloir et les laisser encore le peuple dans le gouffre. Et les quatrième scénario, on ne peut pas aussi rester pessimiste, on peut quand même être optimiste ou... C'est que l'EAC avait tenté de demander au M23 de quitter toutes les positions déjà occupées et de rentrer jusqu'à Runyoni. Ça peut être un scénario aussi souhaité, c'est-à-dire toutes ces zones sont libérées, que les forces armées reviennent, la police rentre dans les zones occupées, ce qui n'est pas facile, mais j'espère que c'est ce que souhaiterait le gouvernement. Et si nous arrivons à ce schéma-là, ce sont des scénarios qui peuvent arriver, si nous arrivons à ce schéma-là, on va se frotter alors le main. Mais il va maintenant se poser, je pense, ce que mon co-débatteur a dit, c'est très important, parce qu'au même moment, même quand on va lancer les négociations, on ne doit pas abandonner le front militaire. Parce qu'à Walikale, il y a toujours des crépitements des balles. Sur l'axe de Walungu, il y a des crépitements des balles.
Merci.
Et c'est très important que le Congolais soit en sécurité partout où ils sont. Donc, un vibrant hommage à tous les habitants de Goma et de Bukavu qui passent des moments très, très difficiles.
Merci, Johnson. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à ces nombreux auditeurs et internautes qui nous écrivent. David Lovic pense que l'unique voie qui reste, c'est la négociation. Vu l'avancée de ces rebelles, encore ici en Ituri, on ne fait que compter les morts et personne n'en parle. Codeco règne en maître. Voilà, Kinshasa, silence radio. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Etienne Lissoumbou et Bertin Kassiama qui m'ont aidé à préparer ce magazine. Billy Betou et Pierre Diassino étaient à la mise en onde derrière les caméras. Donatan Fonani, Clémentine Manga et Hervé Vauquia. Présentation et coordination Kelly Nkouté sous la supervision de Martha Sebou Jangui. Vous pouvez retrouver les temps forts de cette émission sur les comptes officiels Instagram et TikTok de Radio Okapi. N'hésitez surtout pas de liker, de partager, mais surtout de vous abonner. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.